France Info.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur France Info à la radio et à la télé, le canal 16 de la TNT à la une ce soir. Gérard Depardieu devant les juges, accusé de viol, l'acteur déjà condamné au printemps dernier et renvoyé devant une cour criminelle 7 ans après les faits présumés. L'après Bayrou dans toutes les têtes, à moins d'une semaine de la chute annoncée du gouvernement, Emmanuel Macron tente d'ultime discussion. Cacophonie du côté des Républicains, Bruno Retailleau plaide toujours la confiance mais sous condition. Nicolas Sarkozy ne voit pas d'autre solution que la dissolution. Et puis, peut-on être licencié pour ne pas avoir déclaré à son entreprise une relation amoureuse avec une subordonnée ? C'est ce qui est arrivé en Suisse au patron du géant Nestlé. On en débat ce soir avec nos informés. Sylvie Pierre-Brossolette, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste au Point. Christophe Jacubizine est également avec nous. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction des Échos. À vos côtés, Richard Verly. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Correspondant France et Europe du média suisse Blick. Et bonsoir Laurent Mouloud.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à l'Humanité Magazine. C'est l'acteur français le plus connu dans le monde. Gérard Depardieu va à nouveau être jugé pour viol, cette fois devant une cour criminelle départementale. La jeune comédienne Charlotte Arnoux accuse l'acteur de l'avoir violée chez lui en août 2018. Il y a donc 7 ans, l'avocate de Charlotte Arnoux dénonce sur France Info des procédures beaucoup trop longues.
Pour toutes les victimes de violences sexuelles, les procédures actuellement sont beaucoup trop longues. On a des délais de procédure d'instruction lorsque les personnes ne sont pas détenues. Et dans la plupart des cas, dans les affaires de violences sexuelles, il n'y a pas de détention provisoire. Donc on est sur des procédures qui durent des années et des années.
Maître Karine Durieux-Diebold sur France Info aujourd'hui. Sylvie Pierre-Brossolette, elle insiste, l'avocate, sur la répétition aussi des auditions, des confrontations, sur le parcours du combattant finalement que représentent ces procédures pour les victimes.
C'est spécialement grave dans le cas des victimes de viols ou d'agressions sexuelles parce que ça leur fait revivre un cauchemar. C'est presque une double peine pour ces victimes. Et au moins là, elle a la satisfaction d'obtenir un procès qui lui avait été refusé dans un premier temps par le parquet. Elle avait dû faire une constitution de partie civile. Et pour toutes les féministes et les femmes qui croient à ce combat et qui espèrent qu'enfin le viol reculera, en tout cas qu'il ne restera plus impuni comme il l'a été trop longtemps, il y a un peu une double victoire. D'abord, enfin, elle a été crue par des magistrats parce que c'était un des grands problèmes des femmes victimes de violences sexuelles, c'est que c'est leur parole souvent qui n'est pas écoutée, elles ne sont pas crues et on les envoie...
On les envoie quelquefois par les magistrats ou avant
les magistrats, les policiers, tout le système de l'enquête. Bon, donc ça, c'est une première victoire. Et aussi, dans le cas de Depardieu, c'est vrai que c'est un symbole que les puissants ne soient pas impunis, qu'ils aient le même sort que des gens plus modestes ou inconnus, et qu'ils soient punis à leur tour. C'est effectivement un signal donné à toute une profession et à toute une catégorie d'hommes qui se croient toujours à l'abri des poursuites.
Et on l'a dit d'ailleurs, il y a la violence des faits présumés, la violence de cette procédure, la violence des audiences aussi, Richard Verly, accentuée quand c'est une personnalité médiatique très forte comme Gérard Depardieu.
Oui, en plus, dans le cas de Gérard Depardieu, pour le procès qui a eu lieu cette année, moi j'ai assisté à quelques audiences, son avocat...
Au mois de mai dernier, on rappelle qu'il avait déjà été condamné à...
Son avocat avait choisi une stratégie de confrontation, voire, on pourrait presque dire, d'humiliation des plaignantes. Enfin, il s'en était pris directement aux plaignantes de manière extrêmement
rude. Et notamment
rude.
À Charlotte Arnoux qui était présente à ce procès.
Tout à fait. Donc, je ne sais pas si Gérard Depardieu gardera la même stratégie, gardera le même avocat de la même stratégie, on le verra. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'a pas donné du tout l'image de Depardieu comme un homme soucieux de comprendre ce qui s'était passé. C'était vraiment terrible à vivre. Mais par ailleurs, et là je prends ma casquette de correspondant étranger, vu de l'étranger, c'est bien évidemment une carrière qui est terminée. Plus personne n'imagine que Gérard Depardieu puisse refaire du cinéma, puisse continuer à en faire. Voilà, donc c'est là-dessus que se focalise l'attention de la presse internationale.
Pour reprendre ce que vous disiez aussi, Richard Verly, on rappelle que au mi-mai, Gérard Depardieu avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage. C'était en 2021 du film Les Volets Verts. Votre regard, Christophe Jacubizine, sur...
Je suis d'accord, évidemment, ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est très courageux et très douloureux d'entreprendre cette démarche de faire reconnaître par la justice l'agression qu'on a subie. Donc moi, je suis toujours assez admiratif. Après, je pense que normal, ça prenne du temps parce que la justice, elle doit confronter quand même les versions. Il y a souvent, dans ce type d'agression, pas de preuves, pas de traces. Enfin, quand la plainte arrive un peu tardivement, donc c'est parole contre parole. Donc, le rôle des magistrats...
7 ans, ça vous paraît être finalement une durée...
Je pense que le rôle des magistrats, effectivement, c'est de confronter. Et c'est je pense que dans ces cas-là, c'est aussi la sensibilité et ce que vous disiez aussi, hein, la manière dont l'accusé ou le présumé, en tout cas, se défend. Donc, c'est long. Je pense que c'est très long pour les victimes. Mais après, c'est aussi à la fois la force et la faiblesse de la justice. C'est une procédure très longue. Prendre le temps d'entendre toutes les parties. Et je pense que la confrontation, pour le coup, lors du procès, elle est essentielle. Parce qu'on voit dans les grands procès comme ça, que ce soit des procès d'assises ou des procès criminels, que souvent la vérité, quand même, elle émerge par cette confrontation physique dans la salle d'audience, avec ce cérémonial, en fait, qui est si important, en fait, pour accoucher de la vérité. Donc, voilà, que la justice suive son cours. Et je trouve que... c'est effectivement un nouveau combat gagné. Donc, en tout cas, quelle que soit l'issue, c'est toujours important de faire avancer cette cause.
Laurent Molot, on ne nous a pas encore entendu sur ce sujet.
Non, oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont des procédures qui sont souvent très complexes de par la nature des faits. Des fois, des personnes sont confrontées, se retrouvent seules en fait face à leur agresseur. Donc, le recueil des preuves peut être parfois compliqué. Ce sont des procédures aussi qui peuvent être alourdies quand on nomme un juge d'instruction. On entre aussi dans un processus judiciaire qui est beaucoup plus complexe et qui demande plus de temps, avec des recours de part et d'autre, évidemment, qui sont le droit français. Là où il faut insister quand même, mais Sylvie le disait, c'est quand même sur toutes les cas d'agression sexuelle, etc., prennent aussi énormément de temps. Cette justice, qui n'est pas forcément des grands crimes, mais ça peut être aussi des agressions sexuelles, peut être des délits, prennent aussi énormément de temps en raison aussi d'une justice en France, qu'il faut le rappeler quand même, qui a des moyens extrêmement faméliques sur ces questions-là. J'ai regardé les chiffres avant l'émission, je crois qu'il y avait 11 juges professionnels pour 100 000 habitants en France, contre plus de 17 ou 24, je crois, en Allemagne. On a des différences aussi en termes budgétaires, on l'a déjà dit, et souvent débattu sur les plateaux.
Avec l'Espagne, qui est souvent montré en exemple.
Ça, ce manque budgétaire aussi a des impacts sur la vitesse des procédures et donc sur la durée des souffrances des victimes et sur l'émergence de la vérité. Des choses qui pourraient aller plus vite, parce que le parcours de quelqu'un qui a été victime de ce genre d'agression, effectivement, il le revit à plusieurs reprises, etc. Et plus le temps dure, plus les procédures sont lentes, plus les enquêtes sont lentes, parce que les juges peuvent être aussi surchargés, ils ne peuvent pas faire des actes d'enquête aussi rapidement qu'ils le voudraient. Et bien tout ça, ça renforce encore la souffrance des victimes, c'est quelque chose sur lequel il faudrait agir.
Encore un mot, Richard Verli, du média suisse Blick. En Suisse, justement, une autre condamnation pour viol a fait beaucoup parler la semaine dernière, celle de Tariq Ramadan, l'islamologue et prédicateur très, très controversé. Ces affaires médiatiques, elles peuvent justement contribuer à faire progresser plus globalement la lutte contre les violences sexuelles.
Oui, alors dans le cas de Tariq Ramadan, c'était la confirmation de la peine, de la condamnation en première instance. Donc Tariq Ramadan avait fait appel et la cour d'appel a jugé que non, le jugement de première instance a été confirmé. Oui, bien sûr. Alors dans le cas, je ne mettrai pas les deux affaires sur le même plan néanmoins, parce que dans le cas de Tariq Ramadan, en plus, il y avait, je dirais, tout l'aspect public, tout l'aspect de prosélytisme islamiste qui était le sien, et bien évidemment, ça a pris une dimension politique au sens très large. Dans le cas de Gérard Depardieu, c'est le mouvement MeToo, c'est le milieu du cinéma, mais oui, ces affaires extrêmement médiatiques, elles font prendre conscience que les victimes ont des droits, d'abord qu'il y a, un, des choses qu'on ne peut plus faire, et il faut s'en féliciter, deux, que les victimes ont des droits, et trois, que la justice c'est les entendre. Maintenant, quand même, le délai de 7 ans, c'est long, c'est très long, et peut-être une justice idéale, ou en tout cas une justice qui fonctionnerait mieux, devrait quand même veiller à des délais plus courts.
Mais il faut aussi surtout veiller que par ces temps de disette budgétaire et de coupe de crédit, la justice, et surtout la justice dans ce genre d'affaires, ne soit pas handicapée. Au contraire, il fallait remettre pas mal de moyens au pot, c'était prévu, normalement le Grenelle l'avait prévu. Je crains que ça soit comme d'habitude, dès qu'il y a une crise, hein, le droit des femmes recule. Il faut absolument veiller à ça, et ça sera un défi pour le prochain gouvernement, quel qu'il soit.
Transition toute trouvée, Sylvie Pierre-Brossolette, pour parler de notre deuxième thème ce soir dans Les Informés, qui va largement nous occuper, la politique, bien sûr, et François Bayrou, qui continue encore et toujours de défendre son budget et sa place, aussi à 6 jours maintenant du vote de confiance des députés. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui le RN, Place Publique, mais aussi ses alliés et déjeuné avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Le président qui a demandé à tous les chefs des partis de la coalition gouvernementale de se positionner contre la dissolution une fois que le vote de confiance aurait lieu et de travailler d'ici là avec les députés socialistes et Liot. Cela veut dire quoi, ces Bipper Bossolette? Je vous laisse la parole. Qu'Emmanuel Macron pense encore pouvoir faire changer d'avis Olivier Faure, LPS?
Non, on est dans une série de postures où chacun joue un rôle depuis cette affaire d'annonce du vote de confiance. Je crois qu'Emmanuel Macron, quand François Bayrou est venu lui suggérer son idée de vote de confiance, s'est dit « bon, bah, de deux choses l'une, ou ça marche et tant mieux, ou ça marche pas et je serai débarrassé de François Bayrou ». Donc là,
mais pas de tous ses problèmes non plus.
Non, mais peut-être un peu avec légèreté, il lui a donné ce feu vert parce que je pense que les choses ne vont pas aller très bien et que ça risque de retomber sur le nez d'Emmanuel Macron à plus ou moins brève échéance. En attendant, Emmanuel Macron veut inciter évidemment les forces en présence d'abord à être correct vis-à-vis de François Bayrou et à montrer un front uni, ce qui semble difficile du côté de LR, où ça tangue nettement.
On va en reparler largement
voilà.
aussi.
Et puis surtout, il veut préparer la suite, il espère échapper à la dissolution, qui risque de ne pas lui donner le résultat plus favorable que la dernière
Mais
fois.
Mais pour rester sur ces discussions, Christophe Jacques-Cubizine, ça veut dire quoi aujourd'hui, discuter avec le Parti Socialiste, qui clairement a dit notre décision est irrévocable, on ne votera pas cette confiance, on va voter contre?
Je crois que là, pour le 8 septembre, c'est plié. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, il n'y a aucune chance qu'il change la vie. Donc, la confiance ne sera pas votée. Et même si, d'ailleurs, les socialistes la votaient, ça ne se suffirait pas. Enfin, franchement, là, on se fait plaisir. et les politiques aussi. Mais voilà, l'issue, malheureusement, je veux bien rester optimiste. Je veux bien rester dire qu'il faut essayer d'éviter le pire. En même temps, voilà, on y va. Il faut dire la vérité aux Français. François Bayrou va tomber lundi prochain. Après, la question, c'est est-ce que derrière, un nouveau Premier ministre pourrait, lui, s'entendre avec des socialistes? Alors, c'est ce que le président de la République a dit pendant ce déjeuner. Hein. Il a dit « Vous en êtes bien tous d'accord que vous prononcerez contre la dissolution après le renversement du gouvernement ». Donc tout le monde.
Il a tenté d'avoir des garanties en
voilà,
quelque sorte.
Voilà, en tout cas pour qu'une sorte de solidarité. Et puis à la limite, vous savez qu'Emmanuel Macron aime bien gagner du temps. Mm-hmm. Donc s'il pouvait gagner 2-3 mois à faire semblant, à demander à François Bayrou de gérer les affaires courantes et pourquoi pas le
2-3 mois, vous pensez qu'avant d'avoir un nouveau
Premier ministre. Ça peut traîner. Sauf que patatras, au moment du café, il y a l'interview de Nicolas Sarkozy qui sort et qui dit de toute façon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, forcément il y aura dissolution. Donc là, ça rebat les cartes. On a vu qu'au sein des LR, entre Retailleau et Laurent Wauquiez, c'est pas la même
image. On va parler de tout ça, mais pour rester sur effectivement cette espèce de, je pourrais pas dire d'accord, mais d'appel justement à dialoguer avec la gauche. Laurent Mouloud, il a dit Emmanuel Macron, on discute avec le PS, on discute pas avec LFI, bon encore moins avec le RN non plus. On revient en quelque sorte au jour d'après la dissolution de 2024.
Je suis d'accord avec Sylvie, c'est un jeu de rôle, c'est vraiment un jeu de rôle. Enfin, on est dans quelque chose qui n'adviendra pas, et parce que c'est pas non plus l'intérêt du PS. Le PS a déjà fait l'expérience de laisser une chance à Macron, vous vous en souvenez peut-être au moment du conclave sur les retraites, où on a dit on ne votera pas la censure. Le PS a accepté de ne pas la voter pour lui laisser une chance de vie à ce conclave. On a vu le résultat derrière, et je pense que le PS... quelque part, on a aussi un peu tiré l'expérience. Il n'a aucun intérêt à se relancer dans le même type de tractation. Et puis, il y a un congrès qui est du PS aussi qui est passé par là, entre-temps. Voilà, Faure est à nouveau premier secrétaire du PS. Lui non plus n'a pas du tout, au contraire, un intérêt à se mettre dans cette configuration-là.
– Mais il y a un problème, c'est que vous avez raison. Il n'a aucun intérêt, effectivement, à rentrer dans une tractation, mais ils n'ont plus aucun intérêt non plus à la dissolution. Parce alors, que les socialistes vont sans doute se dissoudre dans une dissolution.
– Les socialistes n'ont pas d'intérêt non plus. Effectivement, il y a des solutions dont on va parler après. Ouais. Mais Macron, Emmanuel Macron, je pense que lui non plus n'a pas tellement, en fait, en réalité, d'intérêt du côté du PS, parce qu'il va fracturer une grande part de la droite qui lui reste un soutien parlementaire de poids et indispensable à une majorité relative, comme il essaye de la trousser. On voit les tiraillements qu'il y a au sein de LR. Et Bruno Retailleau a déjà dit « Moi, les socialistes, c'est hors de question ». Ça veut dire qu'il se priverait aussi de cette partie des élus LR. Et je pense qu'il jamais il fera ce choix-là.
On a l'impression qu'il fait aussi des petits comptes d'apothicaire, Sylvie Pierre-Brossolette, en appelant à discuter avec les députés Liot. Ils sont 23, ce groupe Liberté Indépendante Outre-mer.
C'est surtout pour mettre l'opinion un peu de son côté et dire « Bon, j'ai été de bonne foi, de bonne volonté, je leur ai dit discuter, on va éviter de refaire des élections, qui perdent du temps et qui ne seront peut-être pas très efficaces et qui vont faire encore grimper les taux d'intérêt sur les marchés. Donc ça serait mieux de se mettre un peu d'accord, faites un compromis. Bon, il est dans son rôle, hein, normalement, le chef de l'État, de dire, écoutez, il y a une assemblée telle qu'elle est, essayez de faire un geste les uns vers les autres, ça pour éviter la dissolution. Mais effectivement... La posture du Parti socialiste actuel, qui est quand même de concurrencer les filles à gauche pour pouvoir survivre à la tornade Mélenchon, ne prédispose pas à un compromis. Ils ont mis la barre très très haut avec leur contre-budget, qui est quand même plus à gauche que n'importe quel programme qu'on ait vu depuis très longtemps, avec des taxes près de 30 milliards de plus. C'est absolument pas la philosophie de la politique de l'offre d'Emmanuel Macron. Et puis l'histoire des retraites, on revient sur les retraites. Donc ils ont mis tous les voyants rouges, ça va être très difficile pour eux de faire une désescalade en vue d'un compromis. Ça, Macron le sait, mais enfin, c'est son devoir d'essayer de dire arrivez-y quand même, alors que c'est vrai que sur les impôts, non seulement lui, mais LR est complètement contre les levées.
On parlait du Parti Socialiste et d'Olivier Faure, il sera reçu jeudi, Richard Verly, par François Bayrou. Il y a eu les communistes déjà avec Fabien Roussel notamment hier, Raphaël Glucksmann pour Place Publique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire encore, Olivier Faure et François Bayrou?
À ce stade, ils ne peuvent que se dire au revoir. Et dans le cas des socialistes, vis-à-vis de François Bayrou, peut-être adieu, parce que ça semble quand même très difficile d'imaginer un comeback, un retour de François Bayrou sur la scène politique après ce qui risque de se passer lundi. Effectivement, vu la manière dont les choses se sont organisées, vu le projet de budget qu'ils ont déposé, on voit mal les socialistes à la toute dernière minute, puisque jeudi ce sera presque la dernière minute, finalement virer Cazac et accepter une offre que formulerait non pas Emmanuel Macron, puisqu'on n'en est pas encore là, mais François Bayrou. Donc je crois qu'ils n'ont plus rien à se dire, en fait. Et c'est ça qui est dramatique dans tout cet épisode, c'est que la façon dont les choses se sont déroulées, tous ceux qui sont passés dans le bureau de François Bayrou depuis le début, ben, n'ont plus rien à lui dire. Parce que, de toute manière, la messe est dite, personne ne croit qu'il va survivre, et puis, le fond de l'histoire, et là je prends un peu de distance européenne, le fond de l'histoire qui est quand même la nécessité pour l'État français de rectifier sa trajectoire de dépenses publiques et de remettre quand même ce pays sur les rails au niveau de l'endettement, eh bien ça disparaît aujourd'hui, là, dans une séquence qui est purement, on va dire, de tactique politique. C'est quand même assez dramatique.
Et je rappelle que l'EPS, Place Publique et les communistes pour la gauche, LFI et les écologistes ont refusé ces entretiens avec François Bayrou, Laurent Moulin.
Je vais juste rajouter qu'il y a aussi une échéance électorale, ce sont les municipales, et où il y a des enjeux.
Mars 2026.
Paris où il y a des enjeux d'alliance électorale pour conserver des villes, etc., à gauche, et pas des moindres. Si le PS se lançait dans une aventure avec un gouvernement macroniste, quel qu'il soit, je vous laisse imaginer le panorama des prochaines municipales et des ententes qui sont déjà aujourd'hui très compliquées que ça pourrait donner, et évidemment la perte de ville, etc., sachant que les élus locaux sont aussi la force vive d'un parti, quoi.
Christophe Jacobizine.
C'est pour ça, quand même, qu'on peut à nouveau s'interroger quand même sur la décision de François Bayrou. C'est vraiment, parce qu'on voit bien qu'il n'y avait de toute façon aucune solution politique et qu'il est suffisamment intelligent pour savoir qu'il n'y avait aucune chance pour changer son socle majoritaire. Donc en fait, il avait juste envie de partir.
Il a choisi son moment.
Il avait juste envie de partir, et là, il est en train d'habiller sa démission. Il a démissionné, il a renoncé. Ça, je pense que les Français l'ont bien compris. Et donc, il faut habiller ce... Je m'en fiche, en fait. Après tout, je m'en vais. Je vais retourner à Pau, je vais faire les municipales, je vais finir maire. Je pense que pour les Français, c'est très révoltant, parce qu'en fait, c'était irresponsable. Et moi, je suis très en colère, parce que je crois, comme beaucoup de Français, c'est-à-dire que c'est pas un jeu, la politique. C'est pas un jeu, le fait de faire, de gouverner un pays et de faire un budget. On peut pas jouer comme ça avec les gens en leur disant, finalement, OK, mais même si on avait gagné 2-3 mois, il pouvait rester 3 mois de plus, même s'il était tombé,
il serait tombé sur le budget.
Moi, j'ai plein de chefs d'entreprise qui me disent, mais donnez-nous 2-3 mois. Ça commençait à repartir. On commençait à pouvoir reconstruire un projet de boucler notre budget, de pouvoir se relancer sur 2026. Et là, tout s'arrête en septembre. Ça veut dire que l'activité économique s'arrête. Moi, je connais des gens dans des agences immobilières qui me disent, mais depuis une semaine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une demande. Il n'y a plus un intérêt. Les gens arrêtent comme ils l'ont fait en juin. Donc ça, mais vous savez, 2 mois gagnés sur l'économie, c'est énorme.
Oui, mais en même temps, on peut pas donné tort totalement à François Bayrou d'avoir jugé que c'était fichu. C'est vrai qu'il se serait engagé dans des négociations sans fin avec le PS qui n'aurait abouti à rien. Ça aurait été une lente agonie plutôt qu'un suicide
mais
assisté.
Mais ça, c'est pour lui, si pense pour le pays. Il pense à comment, quel héritage il va laisser dans le pays et quel va être ce que retiendront lui les Français.
Oui, mais le plus irresponsable, c'est quand même les forces politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un compromis.
Le plus irresponsable, c'est le président de la République qui décide de dissoudre l'Assemblée l'an dernier, alors qu'il avait une majorité relative, mais qu'il pouvait gouverner encore pendant trois ans. Une
clarification avait-il dit à l'époque, comme l'a dit François Bayrou ces derniers jours. Disent,
écoutez, on passe un compromis qui ne nous va pas du tout, mais pendant un an et demi jusqu'à la présidentielle, pour sauver les meubles, nous on se prépare.
C'est impossible, on l'a dit, il y avait les municipales, il y avait les stratégies politiques des présidents.
Mais en fait, Sarkozy a raison. La dissolution est un peu inéluctable. Et malheureusement, si la dissolution ne donne rien, on va le coup d'après.
On va revenir dans les toutes prochaines minutes sur les propos de l'ancien président de la République, Laurent Mouloud.
Ouais, on publie une petite enquête là, dans le magazine qui sort.
L'Humanité Magazine.
Sort jeudi dans l'Humanité Magazine, mais notre journaliste a eu quelques petits échos, etc. Et certains disent quand même que François Bayrou, effectivement, il est dans une démarche assez personnelle, dans le sens où il cherche à partir avec du panache, quelque chose qui est un mot qui est important pour lui, on va dire, et à son référence, et Mendès France, etc.
Exactement. Et Henri IV, dont il a fait la biographie.
Et certains
à la différence
près,
Mendès France partait avec une cote de popularité en 1955 qui était très élevée.
Certains lui prêtent des ambitions 2027. Bien sûr. Des ambitions 2027 au nom de dire, regardez, moi je vous ai prévenu, regardez ce qui se passe derrière moi et en gros je me relance pour une élection présidentielle sachant que Emmanuel Macron ne pourra pas se présenter.
Ça dit beaucoup de la politique, tous ces gens qui ont pour ambition d'être président de la République et ce qui petit pense pouvoir être président.
Je rappelle quand même qu'il est en train de saboter. Il est en train de saboter la cause qu'il veut défendre, parce que de dire qu'il faut régler le problème de la dette, qu'il faut remettre les finances en ordre, c'est quand même le prochain programme d'Édouard Philippe, qui était le candidat potentiel de sa grande famille politique du centre droit. Et là, ça va devenir très difficile pour quelqu'un d'arriver derrière François Bayrou, qui a quand même saboté cette cause en la rendant vraiment insupportable à la plupart des Français, de venir avec un peu le même programme. C'est assez grave, ça, parce que c'est quand même nécessaire. Quand on écoute Pierre Moscovici tout à l'heure sur une antenne concurrente, il dit oui, il faudrait mettre de l'ordre d'ici 29, et il faut quand même bien les 40 ou 44 milliards, il les faut. Donc pour celui qui viendra derrière pour essayer de défendre cette cause, ça va être plus difficile.
On entendait aussi Christine Lagarde hier, la présidente de la Banque Centrale Européenne, parler effectivement des menaces qui pesaient. Richard Verly, on va vous donner la parole aussi dans un instant. Ça fait un petit moment qu'on ne nous a pas entendu. On parlait des négociations qui restent possibles ou pas. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et président des Républicains, après le déjeuner avec Emmanuel Macron et François Bayrou, a lui aussi été reçu par le Premier ministre.
Rejoindre les incendiaires qui voudraient précisément allumer cette mèche de l'explosion budgétaire et financière, ça n'est pas nous. Un certain nombre de points pour nous étaient importants. Les deux jours fériés, on ne peut pas demander aux Français de travailler plus sans gagner plus. Et François Bayrou s'est montré ouvert, il le dira d'ailleurs lui-même, pour faire en sorte que sur cette notion des deux jours fériés, les choses puissent être discutées.
Voilà, Bruno Retailleau qui reformule cette proposition de finalement de ne pas garder cette suppression des deux jours fériés. Bruno Retailleau, à sa sortie de Matignon, qui a bien du mal, il faut le dire, à tenir ses troupes. Richard Verly, malgré les efforts de discussion, c'est peu de dire que les Républicains sont divisés sur la marche à suivre. On évoquait Nicolas Sarkozy, on peut le rappeler peut-être pour ceux qui nous rejoignent. Dans un entretien au Figaro aujourd'hui, l'ancien président appelle non seulement à ne pas voter la confiance, mais il affirme ne pas voir d'autre solution maintenant qu'une dissolution.
Oui, et il dit aussi qu'il n'y a pas de vrai leader au sein des Républicains aujourd'hui, ce qui est une cartouche tirée directement contre Bruno Retailleau. Moi, je crois que Bruno Retailleau, de toute manière, il est victime de ce qu'il a créé. Il a été élu président, il a concouru à la présidence du parti Les Républicains, il a voulu rester au gouvernement. C'était déjà un truc, encore une fois, si vous prenez d'autres pays européens, ça ne se passe pas comme ça. Et il est pris dans cette contradiction, eh bien, il va aller au bout de cette contradiction, et quelque part, qu'est-ce qui va résoudre cette contradiction? C'est la chute du gouvernement Bayrou. Voilà, donc ça va résoudre. Et ce qui est terrible dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que cette chute du gouvernement Bayrou, elle avantage tout le monde. Et tout le monde y a de l'intérêt, sauf le pays. sauf les entreprises, sauf les Français. Donc, il faudrait quand même peut-être se poser la question. Donc, que chaque parti ait un agenda, c'est légitime.
Est-ce qu'elle avantage vraiment tout le monde, Christophe Jacubizine ?
Peut-être pas les socialistes, on l'a dit, parce que en cas de dissolution, quand même...
Je parlais de la chute du gouvernement.
Ah, oui, oui,
de la
fait. Oui, oui, de la chute du gouvernement. Oui, mais du coup, si ça entraîne une dissolution, c'est vrai que le Front républicain, il sera moins solide qu'il y a un an. On sait très bien que maintenant, il y a des divergences fortes sur plein de sujets entre la France insoumise et les socialistes, et que les alliances ne devraient pas se faire de la même manière qu'elles sont faites en juin. Donc ça favoriserait plutôt le Rassemblement national. Mais c'est vrai que, je suis d'accord, ce cynisme politique est un peu insupportable.
À propos du Rassemblement national, Nicolas Sarkozy, finalement, il se range presque du côté de Jordan Bardella et Marine Le Pen, plutôt que celui de Bruno Retailleau. Je propose d'écouter Jordan Bardella, justement, et Marine Le Pen, reçus eux aussi à Matignon.
Le miracle n'a pas eu lieu et évidemment que cet entretien, même si encore une fois il y a du respect pour la fonction de Premier ministre, ne fera pas changer le Rassemblement national d'avis.
Nous nous appelons, Jordan et moi-même, à une dissolution ultra rapide.
Une dissolution ultra rapide, ce que dit aussi finalement Nicolas Sarkozy, en quelque sorte, Sylvie Perbrossolette.
Oui, et il a l'air de donner des petits coups de main au Rassemblement national. Depuis quelques mois, Nicolas Sarkozy, il avait reçu Jordan Bardella, il dit que c'est un parti comme les autres, qu'ils sont aussi républicains que les autres, et il a l'air de dire, s'ils vont à Matignon, au fond, ça sera démocratique. Et effectivement, le Rassemblement national appuie sur le bouton en ce moment, parce qu'il considère qu'ils ont un moment favorable. Il y a les outrances de Jean-Luc Mélenchon qui font que l'ambiance, effectivement, de Front républicain est gâchée. Ça sera pas comme il y a un an, si jamais il y a une dissolution, ça sera pas embrasser Nouvelle-Ville, on fait une belle alliance contre le Rassemblement national, il y aura des fissures, même s'il y a des restes dans l'opinion, je pense que ça sera beaucoup moins fort. On a vu un sondage qui disait d'ailleurs que plus de la moitié des Français étaient contre cette fois-ci. Et puis, il y a ce qui est à bas bruit depuis des mois sur ces thèmes de la sécurité, l'immigration, etc., les atteintes à la sécurité dans les petites villes, dans le tissu profond du pays, qui, au-delà des grandes villes où le RN a beaucoup moins d'audience, mais dans le reste du pays, c'est en train de choquer beaucoup les populations, et le vote RN monte là. Et donc, je pense qu'est remonté du terrain au RN l'impression que c'était le moment que leurs partisans étaient un peu chauffés à blanc, et qu'il n'y aurait pas la même mobilisation électorale qui les empêcherait de gagner cette fois-ci, et que du coup, ça sera peut-être pas la majorité absolue, mais ils arriveront pas très loin. Et que c'était le bon moment pour jouer le tout pour le tout pour Marine Le Pen, qui a ses ennuis judiciaires, et revenir au premier plan, et peut-être avec les clés de Matignon.
20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet.
Et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, la seconde partie des informés avec ce soir Sylvie Perbrossolette, éditorialiste au Point, Christophe Jacubizine, directeur de la rédaction des Échos, Richard Verly du média suisse Blick et Laurent Mouloud, rédacteur en chef à l'Humanité Magazine. Je suis un homme de parole, Laurent Mouloud, donc je vous donne justement la parole puisque vous la réclamiez pour continuer à parler de cette situation politique et de cette journée que vous avez vécue, journée très agitée.
Non, je voulais juste réagir à ce qui s'était dit, parce qu'on disait personne n'avait intérêt à la chute du gouvernement Bayrou, si ce n'est personne.
Mais, tout le monde y avait intérêt.
Tout le monde a intérêt. Excusez-moi. Il y a quand même un petit angle mort là-dedans. Tout le monde a intérêt. Excusez-moi. Oui, à cette chute du gouvernement Bayrou. Il y a un petit angle mort là-dessus, c'est que les Français aussi la réclament. C'est-à-dire que ce n'est pas. Là, j'entendais, on disait.
Une dissolution.
Mon Dieu, les entreprises, etc. Elles veulent de la visibilité, etc. Les Français aussi, ce sont les premiers, premières victimes, on va dire, de ce budget. Évidemment des mesures de 44 milliards d'euros d'économies qui se font, beaucoup sur la santé, beaucoup sur les retraités. Et quand on regarde les sondages de ces dernières semaines, quand on les teste, on voit qu'il y a un rejet extrêmement fort et puissant de ce projet de budget. Il a allumé le feu avec ce projet de budget, je veux quand même le rappeler. Le mouvement du 10 septembre qui est en train de se préparer, quelque chose un peu multiforme, est le témoignage de ça. Et quand on va en reportage discuter avec les gens qui s'apprêtent à se mobiliser, tous disent la même chose. Et c'est un peu différent du mouvement des Gilets jaunes, on était sur les prix, etc. Là, on est sur un mouvement qui est sur le refus de l'injustice fiscale. Et beaucoup disent on paye trop, les riches ne payent pas assez, etc. Je dis ça pas pour plaider pour ma chapelle, c'est parce que c'est une réalité aussi qui transparaît dans les sondages où ils parlent d'un budget d'injustice. Et cette dimension-là, quand on parle des responsabilités des hommes politiques dans la situation actuelle et la crise actuelle, le fait de poser un budget comme ça, qui pouvait apparaître aussi comme une certaine provocation, je pense que c'était quelque chose d'absolument irresponsable.
Christophe Jacubizine.
Moi, je suis plus circonspect sur le mouvement du 10 septembre. Moi, je ne l'appréhende pas comme vous le faites, mais je connais peut-être moins bien le sujet. On sait qu'il est sorti, il est monté vraiment beaucoup dans les réseaux sociaux. On sait que maintenant, il a été aussi attisé hein, par notamment les Russes, leur capacité à faire mobiliser des peuples sur des causes un peu inventées, un peu fabriquées. Donc je ne sais pas, on verra, pour le coup, on verra comment ce mouvement prend. Il a été ensuite récupéré, un peu légitimé par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Donc ça devient un mouvement peut-être plus à gauche. Et du coup, moi, je ne suis pas sûr qu'il soit soutenu par la majorité des Français, qui n'est pas à gauche aujourd'hui. Hein. Donc je suis très circonspect. Je ne sais pas. Je dis juste que attention à ce mouvement.
Christophe, je ne parle pas du soutien non, au mouvement du 10. Je vous parle juste.
Je ne sens pas comme les gilets jaunes aujourd'hui.
Je parle de l'avis de tous les Français.
Capteur qu'à l'époque,
je parle de l'ensemble des Français, les sondages.
Le rejet, vous avez raison.
Le rejet est énorme. Non, mais moi j'ai été
chacun
surpris.
Votre tour, Laurent Molot.
Excusez-moi, j'étais surpris moi par les chiffres. Je voyais 87% des Français pensent que ce budget nuira à leur pouvoir d'achat. 87% des Français.
Bah, ils ont raison.
C'est bien sûr.
Pour le coup, c'est un budget où on doit faire des économies et où on doit rembourser la dette. Donc
oui,
forcément.
Et les mêmes disent à 74% ils disent qu'ils le jugent injuste et 72 estiment qu'il ne répartit pas équitablement les efforts. Ce sont pas des pourcentages de 40 et habituel d'un découpage droite-gauche.
On en parlait il y a quelques minutes sur cette prise de parole juste de Nicolas Sarkozy qui dit que la dissolution est inéluctable en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui sa parole à Nicolas Sarkozy, Sylvie Pierre-Bosselette?
Là, quand même, elle est importante parce qu'il a beau être effectivement normalement hors-jeu politiquement, et puis il a des ennuis judiciaires encore devant lui assez lourds. Mais enfin, c'est un politique. Il a été élu président de la République assez superbement à l'époque. Enfin, il a fait des performances politiques.
2007.
Il lui donne l'autorité sur ce qu'il peut juger d'une situation. Et même si il est beaucoup moins écouté qu'avant à LR, elle a encore un poids à sa parole parce que, quel que soit le talent de Bruno Retailleau ou de Laurent Wauquiez, pour l'instant, ils sont pas encore arrivés à la cheville de Nicolas Sarkozy au point de vue bête politique. Et donc, l'ex-patron a encore une voix et ça peut peser dans la réflexion des uns des autres. En tout cas, ça arrive à un moment où Laurent Wauquiez a fait un coup de salaud, si je puis dire, à Bruno Retailleau en demandant que les militants décident de la confiance ou non avant ce vote du 8. Et donc Sarkozy...
Ce qui participe aux divisions
dont on parlait au sein des LR, avec une quinzaine de députés qui pourraient voter de sa propre famille, là.
Nicolas Sarkozy, pardon, Christophe Jacubizine.
Bah oui, sur Nicolas Sarkozy, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il a envie d'être aimé. Donc, et comme il connaît très bien les Français qui sentent souvent le pays, il va un peu dans le sens du vent. Et donc, ce qu'il dit sur la volonté de dissolution, vous l'avez rappelé, Laurent, les Français veulent la dissolution, hein, très largement. Et puis, il sait aussi que quand il donne l'impression... finalement, d'aller un peu dans le sens du Rassemblement national, en tout cas de la volonté du Rassemblement national d'avoir un peu la revanche et de se venger du deuxième tour des élections législatives de juin dernier qui, estime-t-il, leur a été un peu volé avec le Front républicain. Donc, le fait que Nicolas Sarkozy prenne position, quelque part, en faveur de cette option, montre qu'il a l'impression que le pays va dans ce sens-là et qu'il veut être dans le camp du vainqueur. Donc ça, c'est très Nicolas Sarkozy.
Ça veut dire aussi, Richard Verly, en parlant de dissolution, que Nicolas Sarkozy juge impossible aujourd'hui la nomination d'un nouveau Premier ministre capable de boucler le budget sans se faire renverser.
C'est clairement ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y a pas d'autre solution que la dissolution. Et il dit, avec une formule assez bien trouvée, que aujourd'hui les conditions sont requises et justifiées pour dissoudre, alors qu'elles ne l'étaient pas lorsqu'Emmanuel Macron l'a fait au lendemain des Européennes.
Il a raison.
Sur le constat, il a raison. Donc je crois qu'il a... personne ne lui a jamais contesté, me semble-t-il, une certaine clairvoyance politique. Il sait faire de la politique, il sait où sont les rapports de force. Bien évidemment, il veut à chaque fois se ménager... une situation qui soit avantageuse pour lui. On pense notamment à tous ces problèmes judiciaires et à la possibilité d'une loi d'amnistie, d'une future majorité, etc., etc. Mais il y a une formule qui est quand même très méchante pour Emmanuel Macron. Il assassine pas mal dans cet entretien. Il assassine Retailleau en disant...
après l'avoir soutenu quand même.
Quand il dit Emmanuel Macron ne pourra pas s'empêcher, je la cite de mémoire, d'essayer de mettre le pied droit dans la chaussure gauche. À nouveau. Ou le contraire. Le pied gauche dans la chaussure droite. C'est-à-dire, c'est en gros, il dit... Emmanuel Macron, quoi, il n'est pas foutu de faire de la politique. Ce type n'est pas foutu de faire de la politique. Et ça, c'est quand même un peu le problème, même tout à fait le problème aujourd'hui, c'est qu'un président respecté dans un certain nombre de domaines, notamment sur les questions internationales, mais dont on a quand même l'impression, notamment vu de l'étranger, qu'après 8 ans, il n'a toujours pas compris le pays et que le pays réel lui échappe.
Mais Sarkozy, il règle tous ses comptes, là. Dans une interview, il règle ses comptes avec Bayrou, qui avait voté
Hollande. Ah oui, j'ai oublié Bayrou, effectivement.
Il règle ses comptes avec Bayrou, donc il est absolument nul. Il règle ses comptes avec Macron, qui ne l'écoute pas assez. Et il règle ses comptes avec son ancienne famille politique, qui ne l'a pas écouté non plus.
Ils ont été proches, quand même, à un moment, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy.
Oui, mais enfin, Sarkozy voit bien que Macron le roule. Il le traite, comme on dit, il le reçoit, il le laisse parler, et il ne fait jamais ce que Sarkozy lui dit de faire. Sarkozy lui avait dit depuis le début, comme à sa famille politique, il faut faire l'union LR Renaissance. Ce qui était d'ailleurs le bon sens. Et tous les ennuis viennent de là.
Et 2022.
Exactement. Et 2022, s'ils avaient fait ça, ils n'en seraient pas où ils en sont aujourd'hui. Et donc, il a l'impression d'un immense gâchis et qu'il aurait mieux fait d'être écouté. Et comme ça l'agace, là, il s'est défoulé. Il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur et il fait un massacre, effectivement.
Il lâche les chevaux. Nicolas Sarkozy aujourd'hui. François Hollande qui dit hier qu'il ne voterait pas, qu'il ne votera pas la confiance puisqu'il est à nouveau député. Ça fait beaucoup, Laurent Mouloud, pour Emmanuel Macron. Les deux anciens, les deux derniers anciens présidents contre lui.
Ah, complètement. Et puis, ces deux anciens présidents qui, je pense, aussi nourrissent des ambitions politiques. Chacun de son côté, et se poser en s'opposant, ou en réglant ses comptes avec son propre camp, parce que c'est aussi une manière de marquer son territoire au sein même de son parti. C'est aussi une attitude, effectivement. Après, je suis pas sûr que ça soit très très important. Effectivement, Nicolas Sarkozy est un personnage écouté à droite, qui peut avoir une certaine influence, mais je ne pense pas que, au-delà de son entretien et puis des petites vaguelettes que ça fait autour, c'est vraiment une grande importance dans les semaines qui viennent.
Sylvie Pierre-Brossolette, vous nous le disiez tout à l'heure, on parle de cette situation politique très compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous disiez, en je ne sais pas combien d'années de journalisme politique, vous n'aviez jamais vu ça.
Ah, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui programme sa chute comme ça, en faisant tout à l'envers... moi, je connais Bayrou depuis ses débuts, presque débuté en même temps. C'était un petit jeune homme très brillant, très vif, très habile. Et là, tout d'un coup, il s'est montré soit complètement pato, soit suicidaire, quoi. C'est l'un ou l'autre.
Et fatigué.
Et on voit qu'il n'a plus le talent qu'il a pu avoir il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et cette année, il a beaucoup usé. Il a eu l'affaire Betaram qui l'a beaucoup préoccupé, ces négociations impossibles, c'est vrai, avec ces forces politiques qui ne veulent pas s'entendre, qui ne veulent pas...
Alors qu'il avait fait des pieds et des mains pour rentrer à Matignon.
Oui, oui, écoutez, ça a été son... Il savait très bien que sans doute l'Élysée, ça serait pas pour lui, donc il a au moins obtenu...
Coché
la case Matignon. Mais ça ne l'empêche pas, je suis sûr, parce que jusqu'au bout, comme il est têtu comme une mule, d'espérer d'avoir encore un trou de souris ou un trou de fourmi pour 2027...
C'est l'expression qu'on entend,
trou de fourmi. En disant que si jamais il y a des drames économiques et une crise financière, il pourra dire, je vous l'avais bien dit, je me suis sacrifié sur l'autel de la rigueur et de la vérité. Vous savez, c'est la une du Point qui dit, le premier qui dit la vérité sera exécuté. Donc voilà, il joue ce rôle-là avec un petit espoir, sans doute vain, mais il joue ce rôle. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça avec un président de la République qui a fait autant d'erreurs. Un Wonderboy qui était quand même très brillant, Macron, il a réussi à se faire élire contre toute attente, dans une position quasi christique de réinvention de la politique, puis il a tout gâché. Et puis Bayrou aussi, il gâche tout. Mais j'ai jamais vu une telle débandade.
Richard Berly.
Oui, j'en viens à me demander s'il ne s'est pas trompé sur les Français. Parce que, regardez, la dernière
Emmanuel Macron ou François Bayrou ?
Je parle de François Bayrou. Emmanuel Macron, il les a perdus, les Français. En tout cas, au-delà de son électorat, de son socle qu'il a toujours à peu près gardé, entre 20 et 25%. Il n'est pas arrivé jamais à attraper les autres et à les garder. François Bayrou, c'est quand même étonnant ce qu'il a dit sur cette antenne, dans l'interview qu'il a donnée dimanche à plusieurs chaînes de télévision, où il lançait un appel aux Français, y compris aux plus jeunes d'entre eux, sur les réseaux sociaux, comme si les jeunes Français allaient sur les réseaux sociaux dire « Vive Bayrou, vive les 44 milliards d'économies budgétaires ». Il y a quelque chose à la fois peut-être de pathétique, mais aussi, je trouve, d'assez étrange du point de vue psychologique. Il a cru, et peut-être croit-il encore au moment où on parle, que la dette, que le sort de la France, à titre personnel, je pense qu'il a raison de tirer le signal d'alarme, eh bien que le sort de la France allait finalement dépasser les clivages politiques et qu'il y aurait une espèce d'insurrection du civisme financier et budgétaire.
Je crois pas qu'il ait cru.
Dans ce cas, c'est pire.
Christophe Jacques-Mézé. Je pense que peut-être qu'il prépare effectivement le trou de souris de 2027, mais Je pense qu'il avait très bien compris, très bien calculé que, bah, en fait, il avait envie d'arrêter maintenant plutôt que...
Mais ça, c'est méchant de dire ça quand même. C'est très méchant.
Je suis très méchant. Mais non, mais c'est méchant, mais je pense qu'il avait envie d'arrêter. Et qu'effectivement, en se disant, comment j'arrête pour me garder une petite
possibilité. Ou de ne pas aller jusqu'au budget en disant que ce serait peine perdue.
Ce qui est vrai, pardon, c'est que quand même, cette décision dont il subira sans doute les conséquences douloureuses lundi, c'est le grand chelem médiatique en ce moment. Il est tous les jours devant les télés, là, ça a son importance quand même, ne l'oublions pas.
Laurent Moulot, d'un dernier mot sur cette séquence.
La déconnexion, vous avez utilisé le bon terme, mais la déconnexion, ce n'est pas que François Bayrou, hein, c'est Emmanuel Macron, la déconnexion. Il passe un mandat, il se fait quand même réélire dans des conditions, c'est un front républicain. C'est des gens votent contre le RN pour l'élire. Il n'a pas été élu triomphalement avec un... Et aux dernières, après la dissolution, on sait très bien aussi dans quelles circonstances la nouvelle Assemblée nationale s'est recomposée avec aussi un front républicain extrêmement fort. Il a nommé aussi, du coup, des premiers ministres qui n'étaient pas forcément raccord aussi avec l'expression démocratique du pays. Donc il y a une déconnexion extrêmement forte là-dessus. Personne, en fait, ne nie ou ne dit qu'il n'y a pas un problème avec la dette. Mais tout le monde s'interroge sur la manière de considérer l'urgence. Là-dessus, François Bayrou dit « il y a urgence, il y a urgence ». Il y en a d'autres qui disent « ça fait 30 ans que tu nous dis qu'il y a une urgence ». Il disait la même chose en 2007. Et il y a des raisons objectives pour dire « il y a une urgence ». Relative, on va dire. Et la deuxième chose, c'est comment la résorber. Quand on regarde un peu la décomposition de ce qui a augmenté la dette depuis le début d'Emmanuel Macron, on sait très bien qu'il y a eu le Covid, on sait très bien qu'il y a eu aussi les suites de la crise financière, mais on sait très bien qu'aussi...
La guerre en Ukraine.
Il y a eu aussi la politique fiscale, que je rabâche à longueur de plateau, j'en suis désolé, mais une vérité, ça se répète. Ça compte pour 40% de l'augmentation de la dette. En France, quand on est passé des 1100 à 3300 milliards aujourd'hui, 40% de cette augmentation est due aux aides fiscales, tout compris, hein, je vous fais un truc très large, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider des entreprises, etc. La question, c'est est-ce qu'on s'interroge là-dessus ? Là, il y a eu la commission d'enquête sénatoriale qui a dit, il a posé un chiffre, 211 milliards d'aides aux entreprises, tout compris, hein, d'aides fiscales, etc., par an. 211 milliards, c'est une petite somme ou c'est une grosse somme ? Est-ce qu'on s'interroge sur à quoi elle a servi ? Sur quel retour on a ? Ce que je veux dire, c'est que ça, les Français l'ont entendu depuis des mois. Ça, ils l'ont entendu. Macron, le président des riches, ils l'ont entendu et ils l'ont vérifié. Donc le rejet, la déconnexion, c'est qu'eux, ils sont encore sur des logiciels politiques et économiques de la vieille France. On va faire des économies, comme nous demande l'Union européenne, on rassure les marchés, on ne veut pas que les taux d'intérêt, etc. Ils sont des vieilles logiques comme ça, mais qui répondent plus aux problématiques d'aujourd'hui. Et là, la déconnexion, elle est extrêmement forte.
Et on rappelle cette date, bien sûr, du 8 septembre. Ce sera lundi prochain pour ce vote de confiance des députés. Laurent Moulot de l'Humanité Magazine, Christophe Jacubizine, des Échos, Sylvie Pierre-Brossolette du Point et Richard Verly du Média Suisse, Blick, toujours avec nous. Un tout autre débat maintenant dans les informés. Quand une relation amoureuse contraint au licenciement. Le Français Laurent Freix, directeur général de Nestlé, le géant de l'alimentation, a en effet dû quitter ses fonctions hier à la suite d'une enquête interne, accusé de ne pas avoir déclaré une relation amoureuse avec l'une de ses subordonnées. Une telle situation serait-elle possible en France ? Non, répond Caroline Diard, professeure associée au département droit des affaires et RH de l'école de management TBS Éducation.
En France, il y a deux grands principes. Le respect de la vie privée du salarié et le respect des libertés individuelles. Donc on ne peut pas contraindre un salarié par rapport à sa vie personnelle. Et il y a même nullité du licenciement, de jurisprudence constante lorsqu'on essaie de licencier un collaborateur pour un motif tiré de sa vie personnelle.
Affaire, on l'a dit, qui concerne les géants suisses Nestlé. Richard Verly, est-ce que l'affaire justement fait parler en Suisse ?
Évidemment, parce que tout ce qui concerne Nestlé, c'est une énorme boîte, une énorme multinationale, et d'ailleurs qui, d'une certaine manière, est associée à la Suisse à chaque fois qu'on en parle. Donc oui, ça fait parler, mais pas sur le thème de l'indignation. Pour deux raisons, je crois. D'abord parce que Nestlé n'est pas... Malgré ce que je viens de dire, Nestlé n'est pas considéré en Suisse comme vraiment une firme suisse. C'est avant tout une multinationale. C'est une énorme multinationale et dont le fonctionnement est beaucoup plus proche des grandes multinationales américaines que de certaines entreprises suisses traditionnelles. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce qui est en cause, c'est pas tant le fait d'avoir eu une relation amoureuse avec une employée de la même société, mais de ne pas l'avoir déclarée. Alors que le code, la règle de Nestlé, que personnellement je ne connaissais pas, fait que vous devez en informer la hiérarchie, surtout lorsque vous êtes à des positions de responsabilité. Donc oui, il y a émotion à la bourse aussi. Le cours de Nestlé a dévissé.
Mais il a remonté en fin de journée.
Mais pas indignation. De toute manière, on sait que Nestlé, vous savez, l'image de Nestlé en Suisse, c'est que c'est une espèce d'armée en costume cravate. Ce sont des gens qui sont extrêmement disciplinés. C'est une boîte avec des règles d'airain qui sont très respectées. Et donc, personne ne s'attend à ce que cette boîte fasse vraiment preuve d'humanité.
Ce licenciement, il s'explique en grande partie par le fait qu'en Suisse, il existe une quasi-liberté de licencier sans motif. Christophe Jacubin, c'est ce qu'explique d'ailleurs un avocat en droit social dans les colonnes de votre journal Les Échos.
C'est vrai, en fait, il faut comme vous lisiez, c'est sans doute dans le code de l'entreprise, les règles internes de divulguer cette relation. Alors après, il semblerait, quand on va un peu dans les coulisses, que c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en vérité, tout le monde est au courant de cette relation, que la personne avec qui il était a démissionné d'ailleurs de Nestlé depuis plusieurs mois, et qu'en fait, on lui a sans doute cherché un prétexte peut-être pour s'en débarrasser un peu plus vite et de manière un peu moins élégante que ça aurait dû être fait. Mais dans le droit suisse, effectivement, vous pouvez très facilement licencier quelqu'un. Après, vous pouvez vous retrouver au tribunal, mais il n'y a pas de motif à donner, contrairement au droit français. Et en revanche, effectivement, dans les règlements intérieurs de l'entreprise, il peut être prévu, notamment c'est le cas pour celui de Nestlé, lorsqu'il y a une relation hiérarchique, effectivement, de déclarer cette relation pour pouvoir la vivre librement au sein de l'entreprise. Mais ils avaient pris les devants. Encore une fois, elle avait démissionné, elle n'était plus à Nestlé. Donc, on n'a pas tous les aspects du dossier.
Parce qu'on pourrait estimer, allez-y. Ouais,
mais dans le droit français, il y a plusieurs principes qui se heurtent. Il y a la liberté d'avoir une vie privée comme on le souhaite, mais il y a aussi des règles à l'intérieur d'une entreprise, défendre les intérêts d'une entreprise. Il peut y avoir des conflits d'intérêts.
Voilà. Il y a d'ailleurs
D'intérêts qu'on déclare une relation particulière avec quelqu'un qui est sous ses ordres ou qui est au-dessus de soi. Ça, c'est vrai que ça complique la donne. Et il vaut mieux que ça soit au vu et au su de tous, parce que sinon, ça peut fausser quand même le jeu normal de la direction d'une entreprise.
Vous savez
ces
que
règles-là paraissent logiques et déontologiques.
Vous savez que 10% des Français rencontrent leur conjoint sur le lieu de travail.
14% même.
14%, alors ça dépend des études, rentre ça à 10%.
Voilà. Bon, un peu plus d'argent.
Ça va faire monter le chômage.
ça risque de faire monter le chômage.
Laurent Mouloud, votre regard.
Effectivement, non, mais après, je ne veux pas rentrer dans le débat entre les règlements internes des entreprises. Ouais. Qui s'effectue quand même dans le cadre de la loi. On peut pas faire non plus n'importe quoi, mais les règlements internes sont contraignants. Donc, je connais pas bien la réglementation suisse comment ça se passe dans les entreprises là-bas. Mais évidemment, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi chez Nestlé, là, eu la volonté d'aller vite, enfin, de voler vite, de régler peut-être un problème aussi d'image, et de pas avoir un nouveau scandale sur les pattes. Quand même, Nestlé, c'est quand même une entreprise numéro un de l'agroalimentaire, 270 000 salariés dans le monde, des investisseurs qui regardent ça avec énormément de prudence et d'attention, parce que Nestlé, c'est aussi une entreprise qui a eu des difficultés, face à la hausse des coûts, notamment du cacao, etc., sur beaucoup de produits dans lesquels ils sont présents dans le secteur, ils ont dû affronter beaucoup de difficultés financières.
Les accusations aussi sur
les accusations, effectivement, on se rappelle le coût des pizzas Buitoni qui ont même coûté la vie à deux enfants, et le déni de cette entreprise là-dessus. Ils promènent une image aujourd'hui qui n'est pas extrêmement bonne, et surtout qui est un peu aussi en décalage avec une certaine jeunesse qui veut des produits plus sains, etc.
D'ailleurs, la professeure que l'on entendait tout à l'heure, qui avait été interviewée sur France Info aujourd'hui, disait qu'elle était un peu étonnée d'un point de vue légal ou juridique, mais pas d'un point de vue réputationnel, comme elle le dit.
Tout à fait. Et là, je pense qu'il y a un enjeu réputationnel qui se joue aussi, de montrer une certaine exemplarité vis-à-vis des salariés de Nestlé, mais aussi vis-à-vis aussi de tout le monde, en disant eux, ils tergiversent pas avec ça. Ça rattrape aussi, on sait qu'ils ont été embarqués dans des affaires de lobbying, c'est intense.
Ok, débat, c'est un peu ordre moral de dire, ça m'étonne de voilà. Part, Laurent, de dire que le moment où elle n'entraîne pas des conflits d'intérêts et que, on l'a dit, entre 10 et 15% des Français rencontrent leur conjoint sur le travail.
Ah non, mais j'ai pas dit que j'approuvais. Je vous rassure. J'ai juste dit que derrière, il y a une stratégie aussi de communication qui est en place, dans laquelle il faut pas penser qu'ils ont fait ça sur un coup de tête.
Et de plus en plus,
pour ces raisons-là.
De boîte, il y a maintenant le washing de réputation. Alors, on utilise tout. On est écolo, on est féministe. On est un peu ordre moral et rigoriste. Pour les images des boîtes, c'est tellement important, même pour leur bilan et leur cours de bourse, qu'effectivement, pour masquer d'autres scandales, on a l'air d'être absolument plus royaliste que le roi dans d'autres domaines.
Exactement, il y a un côté vitrine.
Oui, de toute manière, ça confirme tout ce qu'on vient de dire. Nestlé n'est pas c'est une très belle boîte. C'est une, vous l'avez dit, les chiffres de 170 000 employés qui intervient dans le monde entier. Mais ce n'est pas une boîte qui est aimée. Nestlé. Et même en Suisse, on la respecte par sa puissance, on l'admire pour certains, pour ses résultats financiers lorsqu'elle en a, mais c'est pas une boîte qui est aimée.
Mais ça veut dire que les consommateurs en Suisse ou ailleurs, ça les intéresse de savoir s'il y a cette relation, quelle qu'elle soit, pour acheter les produits ensuite.
Non, je crois pas.
Parler de la réputation.
Il y a une grande sensibilité sur notamment tous les aspects écologiques liés à certains produits liés au cacao. Il y a eu d'ailleurs des scandales, mais il faut savoir que c'est une boîte Nestlé qui est complètement corsetée par l'aspect procédurier en raison de ça, parce qu'elle est attaquée dans de nombreux pays. Donc le département juridique de Nestlé est un département extrêmement puissant, et cette affaire...
Et avec, vous le disiez, des dizaines, centaines de milliers de salariés, état dans l'état, en quelque sorte.
Par contre, n'écartons pas du tout la possibilité qu'il y ait eu un règlement de compte, comme on en voit dans les grandes multinationales, et qu'on ait utilisé cette affaire pour renvoyer quelqu'un dont on ne voulait plus. Ça arrive quand même dans beaucoup d'entreprises.
Oui, il est arrivé à son poste nommé il y a un an jour pour jour.
Un an jour pour jour. Moi, c'est ce qui m'a étonné. Parce que tout le monde a pensé à ça en disant ils se sont servis de ça pour. Mais c'est vrai que ça faisait qu'un an qu'il était aux manettes.
C'est un ancien de la boîte, quand même.
C'est un ancien. Justement, ça renforce. Ils ne l'ont pas découvert il y a un an. Voilà, comme un patron qui prendrait les rênes et qui ferait n'importe quoi. Donc c'est assez... Je pense qu'il y a un enjeu aussi, effectivement, de vitrine derrière tout ça. Nestlé, dans les scandales, je veux juste le rappeler quand même, c'est sur la scandale de l'eau. Comme vous disiez, aux États-Unis comme en France,
révélé par la cellule d'investigation de Radio France.
Exactement, voilà, sur
l'eau filtrée.
Voilà, l'eau filtrée, c'est ça,
exactement. Pas de risque sanitaire, mais c'était pas conforme à l'eau minérale.
Pas de risque sanitaire, certains disent qu'il pouvait y en avoir aussi.
Il y a un débat.
Voilà, mais il y a eu aussi sur les pompages de nappes phréatiques. Hein. C'est aussi un énorme débat aux États-Unis dans lequel est empêtré aussi Nestlé.
Et ce sera le mot de la fin pour ce soir. À la une de l'UMA, tiens, Laurent Mouloud, je vous laisse la parole.
On revient sur François Bayrou, évidemment, avec son discours.
Que lit-on à la une du Point cette semaine, Sylvie Perbeau-Solette?
La tragédie française avec une grande photo de François Bayrou et cette citation « Le premier qui dit la vérité sera exécuté ». On essaie de défendre ses idées à défaut de sa personne.
Vous nous en parliez tout à l'heure. François Bayrou est-il à la une des Échos demain?
Pas du tout. C'est une programmation. On parle évidemment de François Bayrou, mais non, on parle du Mercosur. Parce que ça y est, l'Europe a avancé. Elle a publié aujourd'hui la version de l'accord avec l'Amérique du Sud. Évidemment, nous, on s'en réjouit, vous le savez bien. On pense que le libre-échange fait progresser l'économie et le niveau de vie, et que c'est un très bon accord pour l'Europe et pour la France. Et on n'aura pas les moyens de s'y opposer, parce que comme le texte était scindé en deux, comme pour celui sur le Canada, il pourra être adopté à la majorité qualifiée des États. Donc la France pourra bouder. Le Mercosur aura bien lu.
À la une des Échos, un conseil de lecture sur le site de Blic, Richard Verli.
Demain, la une du site sera sur la Chine avec cette grande parade militaire. Vous savez, pour le 80e anniversaire de la capitulation du Japon. Et ce sera l'occasion pour Xi Jinping de démontrer que c'est peut-être lui l'homme le plus puissant du monde.
Voilà l'actu internationale et nationale à la une de tous vos médias. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci à ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. À réécouter sur le site et l'appli France Info. Les informés qui reviennent demain matin. Très bonne soirée.